Bonjour Linda Tala.
Bonjour.
Alors si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler d'un travail que vous avez fait, mais c'est énorme. C'est une monographie ?
Oui.
C'est une monographie.
C'est l'histoire du village d'Aubre, des origines du peuplement à nos jours.
Wow. Comment est-ce que vous avez été... D'abord, est-ce que vous êtes historienne ?
Oui, de formation. J'ai suivi des études d'histoire à l'université d'Avignon, où j'ai passé une maîtrise qui a été suivie d'un DEA, c'est-à-dire d'un master, à l'université d'Aix-en-Provence.
Et c'est quoi votre domaine de prédilection ? Vous travaillez sur plutôt sur l'époque moderne, le Moyen-Âge, l'époque contemporaine
Alors, ma spécialisation, c'est l'histoire ancienne et l'archéologie, et plus particulièrement dans le Vaucluse. Et d'ailleurs, dans le cadre de ma maîtrise et de mon DEA, j'ai publié un premier livre sur le Luberon et Pays d'Apt, qui est paru en 2004. Ensuite, un catalogue des collections du musée de Cavaillon. Puis doit paraître prochainement un ouvrage sur Avignon, Carpentras et Cavaillon dans l'Antiquité, en collaboration avec Dominique Caru, archéologue départemental.
Comment est-ce qu'on passe du travail vraiment très théorique, hein, qui est le travail d'historien, un travail donc qui nous amène à faire des recherches, à emmagasiner beaucoup de connaissances, de données, de faits. Comment est-ce qu'on arrive ensuite à ce travail de vulgarisation et ce travail de communication finalement? Comment est-ce qu'on passe de ces deux univers différents?
Alors en fait, effectivement, c'est pas évident, parce qu'il faut effectivement emmagasiner beaucoup de documentation, qu'elle soit publiée en archives, les témoignages oraux, compiler tout ça, et ensuite, effectivement, c'est difficile de le rendre digeste. Et d'ailleurs, vous aurez compris que j'ai eu du mal à synthétiser.
J'imagine. On va pas parler de poids, hein, parce que c'est pas non plus l'idée. Il est énorme. Il fait combien de pages, votre
576 pages.
Ah oui, des origines à nos jours en 576 pages, je dis chapeau bas, hein, je tire mon chapeau. Alors, je crois que c'est un travail de commande, hein, on va revenir donc à l'ouvrage pour lequel on est ensemble aujourd'hui. Aubre, un village au fil du temps, c'est un travail de commande.
Oui, alors c'est le maire du village d'Aubre, Éric Richard, qui avait à cœur de sauvegarder la mémoire du village, parce que c'est un village qui a été qui a frôlé l'extinction dans les années 50, puis qui a été repeuplé à partir des années 60, mais essentiellement avec un apport de population extérieure. Donc il n'y a aujourd'hui à Aubre quasiment plus d'Aubrois d'origine, et donc le maire, qui lui-même est originaire de Nantes, souhaitait sauver un peu la mémoire des Aubrois. Et deux personnes, donc Elisabeth Faure et Jeannine Poitevineau du conseil municipal, avaient déjà commencé un travail d'enquête auprès des derniers Aubrois. Et donc l'objectif était de poursuivre ce travail en aboutissant à la rédaction d'un livre.
Alors on va quand même préciser à nos auditeurs, parce que depuis tout à l'heure on parle d'Aubre, où se situe Aubre ?
Alors Aubre, c'est un village de la Drôme provençale qui se trouve à 3 km au nord-est de Nyons. Dans la vallée de l'Aigue, et donc au cœur des baronnies.
Alors il a une histoire particulière, hein, ce village, parce qu'il a un lien avec le Vaucluse.
Oui, alors ça c'était très intéressant, parce que en fait le village d'Aubre était une ancienne enclave du comtat venaissin. Donc on parle, il y avait 4 enclaves du Haut-Comtat, Aubre, Les Piles, Valouse et Hérolles. Mais Aubre avait en plus la particularité d'appartenir pour moitié au pape et pour moitié au roi de France, au Dauphiné. Donc le village était divisé entre ces deux administrations, ce qui signifie que la documentation était répartie entre le Vaucluse, mais également les archives du Vatican, et tandis que pour la partie du Dauphiné, les archives étaient à Valence et Grenoble.
Ça a dû être simple. Vous êtes allé au Vatican ?
Malheureusement, non.
Non, parce que c'est...
J'ai pas pu y aller jusque-là.
Ça aurait été bien.
Mais heureusement, par l'intermédiaire de documentation déjà publiée, j'ai pu quand même accéder au... éléments essentiels.
Je fais un petit aparté. Là, l'autre jour, avec Alain Costandini, on parlait des poupées russes, hein, que pouvaient être certains territoires du Vaucluse. Et ben, on en retrouve encore avec territoire enclavé et même re-enclavé.
Alors, Aubre, 450 habitants.
Ah oui, il y a combien d'habitants aujourd'hui à Aubre ?
Il y a le dernier recensement de 2011 signalait 430 habitants.
Qui sont... Il y en a combien ? Il y a combien de vrais Aubrois ?
Alors, je les ai pas comptés.
Bon, ils sont pas beaucoup.
Mais ils sont très minoritaires.
Mmh. Alors, quelle est la période qui vous a le plus touché?
Alors, étonnamment, c'est la période, à partir de la période moderne, c'est-à-dire 17e siècle jusqu'à la Révolution. Ça m'a beaucoup touchée parce que c'est une période que je connaissais pas bien, hein, j'avais jamais étudié les sources de ces périodes-là. Et je me suis même attachée aux personnages des sources que j'ai consultées. Donc c'était vraiment... Bon, après, j'ai aimé aussi la période contemporaine et le rapport avec les habitants que j'ai interrogés, évidemment.
Ils vivaient de quoi, à la période moderne, les Aubrois et les Aubroises?
Alors, c'était un petit peu difficile.
C'est vrai.
Ils se plaignaient de vivre dans un territoire rocailleux, où il n'y avait que des racines et que des rochers, et où rien ne pouvait pousser. Et effectivement, au moindre aléa climatique, tout était ravagé. Ensuite, en plus, c'est une commune qui est parcourue par deux torrents, donc régulièrement inondée. Enfin, sinon, ils faisaient quand même des cultures de vergers, de jardins, de blé, de céréales.
La lavande, par exemple, n'avait pas encore été importée, l'olivier n'avait pas...
Alors, des oliviers, il y en avait, mais ils sont souvent signalés comme détruits par les intempéries, de même que les vignes qui sont signalées comme étant complètement rabougries. Ils faisaient pas mal d'élevage aussi, mais ça posait problème avec le seigneur qui, lui, voulait préserver les forêts, et l'élevage, c'est une catastrophe
pour la forêt. Donc,
voilà.
Pourquoi?
Donc, parce que ça mange tout, les chèvres. Et...
Voilà, les vaches de chèvres.
Donc il y avait un sérieux conflit entre les habitants et le seigneur à ce sujet. Mais pour les habitants, c'était une source très importante parce qu'ils pouvaient vendre les produits issus de l'élevage et notamment les produits laitiers.
Quand on regarde comme ça, parce que là, vous avez vraiment un regard d'ensemble sur un village, mais je pense et très 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 long, hein, parce que par exemple, quand on pense au travail d'Emmanuel Leroy à la Durée sur Montaillou, voilà, qui est à la fois de la fiction et de la réalité, ou d'autres travaux de ce type, il n'y a qu'une période donnée qui est étudiée. Donc là, vous travaillez sur les globalités. Qu'est-ce qui ressort de l'évolution de cette commune? Finalement, une commune, c'est comme un être humain. Ça naît, ça vit, ça meurt, ou en tout cas, ça en passe de mourir.
Ben oui, mais alors là, ça renaît.
Là, ça renaît. Voilà. Bon. En l'occurrence, mais c'est ce que vous avez. Qu'est-ce qui vous a frappé sur l'évolution?
Alors là, c'est une question difficile.
Non, mais on fait une pause, hein, si vous voulez. Qu'est-ce qui, alors, peut-être le plus frappé sur l'évolution globale de. Vous avez fait un bilan finalement de ce travail?
Oui, mais c'est vrai que, bon, après, c'est difficile d'avoir un recul parce qu'on a l'impression que la population, elle évolue, elle se transforme, et puis d'une période à l'autre, c'est différent. Enfin,
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts à la guerre de 14?
Pas mal, oui, il y a eu.
Ah oui, ça, c'est une très bonne question. Est-ce que les guerres ont ravagé le village?
Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu 8 morts de la guerre de 14, et à l'échelle d'un petit village comme ça, qui à l'époque comptait peu d'habitants, c'est quand même énorme.
Et vous avez réussi à récolter des sources qui parlaient justement de la vie quotidienne, en dehors des naissances, enfin en dehors de l'état civil, lors de ces périodes, comment faisaient les femmes sans hommes, comment le village pouvait s'approvisionner aussi?
Oui, alors là-dessus, j'ai eu beaucoup de sources à travers les archives communales, des lettres qui étaient écrites au maire, des registres d'enquêtes agricoles sur les fermes, le ravitaillement, le rationnement alimentaire. Là.
Eh oui, j'imagine là que pendant la Première Guerre mondiale aussi, il y avait un rationnement alimentaire. Parce que
oui.
C'est vrai qu'on voit l'étiquette de rationnement
oui.
dans tous les films parlant de la Seconde Guerre mondiale, mais
oui.
D'accord. Et je vois aussi dans l'ouvrage, il y a de la documentation, enfin des photos, donc de vestiges archéologiques.
Oui.
Donc là, il y a eu des fouilles qui ont été pratiquées?
Alors non, il n'y a pas eu de fouilles pratiquées. En revanche, il y a un lotissement qui a été construit à l'emplacement d'une villa gallo-romaine.
Ah oui, et du coup, les archéologues n'ont pas pu fouiller? Ils
n'ont
pas eu le temps?
Non, mais en principe, les vestiges ont été préservés.
D'accord. Donc il y avait une villa au départ, au tout début d'Aubre. C'est vrai que
voilà.
C'est la première question que j'aurais dû vous poser. Au départ, était une villa gallo-romaine?
Voilà. Les vestiges qu'on a retrouvés montrent que c'était une occupation importante, avec des propriétaires importants. Mais le reste du territoire d'Aubre était parsemé de fermes plus rustiques.
D'accord, plus petites, qui appartenaient à... Alors, ça a été d'ailleurs une villa jusqu'à quand ? Jusque, on va dire, dans le haut Moyen-Âge, ça restait villa où, malheureusement, on n'a plus de documentation.
Voilà, on n'a pas assez de documentation pour savoir jusqu'à quand elle a été occupée. Et puis, comme il n'y a pas eu de fouilles, c'est pas évident de dater.
Et ensuite, le premier village, tel qu'on peut le concevoir, ça date de la période féodale ?
Alors, en fait, sur l'emplacement du village, du vieux village, donc c'est un site perché, donc c'était déjà à l'origine un oppidum, donc les sites de hauteur qui étaient occupés durant la proto-histoire et qui permettaient de surveiller le territoire. On se mettait en hauteur pour pouvoir...
voir qui arrivait.
Voilà.
Bien utile à l'époque des grandes invasions barbares.
Voilà.
Linda Tala, est-ce qu'on peut le consulter, vous, cet ouvrage ?
Alors, on peut le consulter en accès libre à la bibliothèque Secano, où je l'ai donné parce que j'ai abusé des services de cette bibliothèque.
Ils sont adorables, ils aiment bien quand on leur demande des choses pointues. Donc,
je l'ai donné aussi aux archives départementales de Vaucluse, au Palais du Roure, et aux archives municipales d'Avignon. Donc il est consultable en accès libre dans tous ces lieux. Et une présentation du livre est également proposée sur le site de l'éditeur, sur www.carder.fr. Donc Carder, C-A-R-D-E-R-E. Merci. Et donc il est à 28 euros, voilà.
Ça marche, merci beaucoup.
Et à bientôt. Merci à vous.
Au revoir.